Chapitre 2. Vers le milieu de l'hiver, Dymov commença visiblement à se douter qu'on le trompait. Comme s'il avait un poids sur la conscience, il ne pouvait plus regarder sa femme en face. Il n'avait plus son large sourire joyeux quand il la revoyait, et pour demeurer le moins possible en tête-à-tête avec elle, souvent il amenait à dîner un de ses collègues, Korostelev. Un petit homme à la figure un peu chiffonnée, aux cheveux ras, si timide qu'en parlant à Olga Ivanovna, il déboutonnait chaque fois son veston, puis le reboutonnait et finalement fortifiait sa moustache droite. À peine attablés, nos deux médecins causaient de phénomènes très intéressants. Ils disaient que dans les cas où le diaphragme se relève très haut, les palpitations du cœur sont à redouter, ou que, dans ces derniers temps, on avait souvent l'occasion d'observer des polynévrites. Ou bien Dymov racontait que la veille, en pratiquant l'autopsie d'un sujet dont le diagnostic portait anémie pernicieuse, il avait constaté un cancer du pancréas. Et il semblait que les deux hommes parlaient médecine seulement pour donner à Olga Ivanovna le moyen de se taire, c'est-à-dire de ne point mentir. Après le dîner, Korostelev s'installait au piano et Dymov lui disait, en poussant un soupir, « Eh bien, mon ami, joue-moi quelque chose de bien triste. » Relevant les épaules, écartant largement ses doigts, Korostelev essayait le clavier puis commençait à chanter avec une voix de ténor. Je voudrais voir un coin sur la terre où le paysan russe ne gémisse pas. Alors Dymov soupirait de nouveau, appuyait sa tête contre son poing et devenait soucieux. C'est que, depuis quelque temps, Olga Ivanovna se conduisait de la manière la plus imprudente. Chaque matin, elle se réveillait d'une humeur exécrable, avec l'idée qu'elle n'aimait plus Rabiovski, et que tout, grâce à Dieu, était bien fini. Mais après avoir bu son café, la jeune femme commençait à raisonner. Alors elle se disait que Ryabovski lui avait coûté son mari et qu'ainsi elle était maintenant privée tout à la fois de son mari et de Raïkovski. Puis elle se rappelait ce que ses amis disaient du nouveau tableau que Ryabovski préparait pour l'exposition. Quelque chose d'extraordinaire, moitié gens, moitié paysage, qui provoquerait l'enthousiasme de tous les visiteurs. Et elle songeait que ce chef-d'œuvre, elle en était l'inspiratrice, et que son influence avait grandement développé le talent de Ryabovski. Or, cette influence était si favorable, si capitale, que l'artiste serait tout simplement un homme perdu si Olga l'abandonnait maintenant. Elle se rappelait aussi comment, la dernière fois, il était venu la voir avec une cravate fraîche et une jaquette neuve, gris moucheté, comment il avait demandé à sa maîtresse, d'un air langoureux, « Suis-je beau ?» Et en effet, avec ses jolies boucles blondes et ses yeux bleus, il était fort élégant et vraiment beau, ou peut-être lui avait-il seulement semblé-t-elle, et il s'était montré fort aimable. Après avoir ainsi rappelé ses souvenirs et réfléchi un peu, Olga Ivanovna s'occupait de sa toilette, puis très émue, elle se dirigeait vers l'atelier de Ryabovski. Elle trouvait le peintre joyeux, ravi de son tableau, qui était vraiment une belle venue. Il sautait, il faisait mille folies et répondait par des calembres d'aine aux questions les plus sérieuses. Olga Ivanovna était jalouse du tableau, qu'elle haïssait, mais, par égard pour son amie, elle demeurait devant cette œuvre 5 minutes sans rien dire, puis elle soupirait, comme on soupire à la vue d'une chose sainte. « Franchement, tu n'as rien créé de pareil encore. Tu sais, mon ami, cela fait même peur. » Après quoi, elle suppliait Ryabovski de l'aimer toujours, de ne jamais la délaisser, d'avoir pitié pour elle, si misérable, si abandonnée. Elle pleurait, embrassait les mains de Ryabovski, lui répétait « Jure-moi que tu m'aimes !» lui démontrait que sans l'influence de sa maîtresse, il serait un homme perdu. Enfin, ayant chassé la bonne humeur de l'artiste et quelque peu humiliée elle-même, Olga s'en allait chez sa couturière ou chez une actrice de ses amies pour chercher un billet de théâtre. Quand par hasard elle ne trouvait pas Ryabovski dans son atelier, la jeune femme laissait un petit mot pour lui jurer qu'elle s'empoisonnerait s'il ne venait pas la voir le jour même. Pris de peur, il accourait, demeurait à dîner. Sans le moindre égard pour la présence du mari, l'artiste criblait d'impertinence Olga Ivanovna, qui lui rendait la monnaie de sa pièce. Tous les deux sentaient qu'ils se gênaient l'un l'autre, qu'ils étaient l'un pour l'autre l'ennemi, le tyran. Ils s'en montraient furieux, et dans leur colère, ils ne s'apercevaient pas qu'ils dépassaient les bornes et que le petit Korostielev lui-même comprenait tout. Après le dîner, Ryabovski s'empressait de prendre congé. « Où allez-vous ? » lui demandait la jeune femme dans le vestibule avec un regard presque haineux. Grimaçant et clignant des yeux, ils nommaient une dame de leur connaissance, et on voyait bien que c'était pour se moquer d'elle et pour la contrarier. Olga se retirait dans sa chambre à coucher, se jetait sur son lit, excitée par sa fureur jalouse, elle mordait son oreiller, puis finissait par éclater en sanglots. Dimov laissait Kostroyev au salon et, confus, perdant la tête lui-même, il arrivait dans la chambre de sa femme et lui disait avec douceur « Voyons, maman, ne pleure pas si haut. À quoi bon ? Il vaut mieux se taire de ces choses-là. Il ne faut pas laisser voir aux autres. Ce qui est fait ne peut plus se défaire. » Ne sachant plus comment calmer sa rage, qui lui donnait même la migraine, et croyant que tout n'était pas encore perdu, elle se débarbouillait, poudrait son visage rouge d'avoir pleuré, puis courait chez la dame en question. N'y trouvant point Ryabovski, elle courait chez une autre, puis chez une autre encore. Au début, elle était honteuse d'aller ainsi de porte en porte, mais elle ne tarda point à s'y habituer, si bien qu'il lui arrivait souvent de faire ainsi le tour de ses amis dans une seule soirée, afin de surprendre son amant, et tout le monde s'en apercevait. Une fois, elle dit à un jeune homme en parlant de son mari « Oh, cet homme-là m'écrase de sa générosité !» Cette phrase lui plut tellement à elle-même que, voyant les artistes au courant de la situation, elle ne manquait jamais de leur dire à propos d'Ossip avec un geste convaincu « Voilà un homme dont la générosité m'écrase !» D'ailleurs, Olga n'avait rien changé à son train de maison. Tous les mercredis, comme l'année précédente, elle donnait des soirées artistiques. Le tragédien déclamait, les peintres dessinaient, le violoncelliste jouait, le chanteur chantait, et juste au coup de minuit, la porte menant à la salle à manger s'ouvrait et Dimov annonçait, avec son bon sourire habituel, « Messieurs, venez prendre quelque chose, je vous prie. » Comme l'année précédente, Olga Ivanovna se tenait toujours à l'affût des grands hommes et toujours elle en découvrait, s'enlaçait, en cherchait de nouveau. Comme l'année précédente, elle rentrait fort tard. Seulement, cette année, elle ne trouvait plus son mari au lit. Dimov restait chaque soir dans son cabinet, où il semblait occupé à quelque travail. Il se couchait vers 3 heures du matin, et à 8 heures, il était debout. Une fois, comme Olga s'habillait devant sa glace pour aller au théâtre, Ossip entra dans la pièce en habit et en cravate blanche. Il souriait de son bon sourire doux et regardait sa femme bien en face, comme autrefois. Son visage était radieux. « Je viens de soutenir ma thèse d'agrégation, » déclara-t-il en s'asseyant et en se frottant le genou. « Eh bien, as-tu passé ? Oh oui, répliqua-t-il, riant et tendant le cou pour voir dans la glace la figure de sa femme, qui avait continué de lui tourner le dos et d'arranger sa coiffure. Ah mais oui, répéta Dimov. Et sais-tu, oh, il est fort possible que l'on m'offre la chaire de pathologie générale. Il y a quelque chose comme cela dans l'air. On voyait à sa physionomie heureuse et rayonnante que si Olga eût bien voulu partager avec lui son triomphe, sa joie, Ossip lui aurait tout pardonné, le présent et l'avenir, il aurait oublié tout. Mais elle ne comprenait pas ce que c'était que l'agrégation et la pathologie générale. De plus, elle craignait de se mettre un peu en retard pour le théâtre. C'est pourquoi elle ne dit rien. Dimov resta là 2 minutes, puis il se leva et sortit en souriant d'un air coupable. Ce fut une journée d'angoisse. Dimov souffrait d'une atroce douleur à la tête. Le matin, il n'avait pu ni prendre son thé ni se rendre à son hôpital. Il demeurait tout le temps allongé sur le divan turc dans son cabinet. À 1 heure, Olga Ivanovna s'en fut, comme d'habitude, chez Ryabovski, afin de lui montrer son étude, nature morte, et de lui demander pourquoi il n'était pas venu la veille. Elle-même trouvait que son étude ne valait rien, elle ne l'avait faite qu'afin d'avoir un prétexte de plus pour aller voir le peintre. Elle entra chez lui sans avoir sonné. Dans le vestibule, en ôtant ses caoutchoucs, elle crut ouïr un léger bruit, comme le froufrou d'une jupe qui venait de l'atelier. Elle s'empressa de jeter un regard à l'intérieur, mais elle ne vit que le bas d'une robe, apparut un moment et disparut bien vite derrière le grand tableau sur chevalet entièrement voilé d'un rideau noir. Il n'y avait plus aucun doute, c'était une femme qui se cachait. Combien de fois Olga elle-même avait trouvé un refuge derrière ce tableau? Ryabovski, visiblement troublé, eut l'air très étonné de cette visite. Il tendit les deux mains à Olga et, avec un sourire forcé, lui dit « Ah, c'est vous, charmé de vous voir, mais qu'annoncez-vous de bon ?» Les yeux de la jeune femme se remplirent de larmes. Elle avait honte, elle souffrait horriblement et jamais pour rien au monde, elle ne se fût décidée à parler en présence d'une femme étrangère, d'une rivale, qui à ce moment, derrière le tableau, devait se moquer d'elle. « Je vous apporte une étude, » murmura-t-elle timidement, d'une voix à peine perceptible, et ses lèvres tremblèrent. « Nature morte. »« Ah, une étude !» L'artiste prit l'étude, puis tout en l'examinant, il passa, comme sans le faire exprès, dans la pièce voisine. Olga le suivait d'un air soumis. Nature morte, de la meilleure sorte, fredonnait le peintre en s'amusant à chercher des rimes. Voilà ce que j'apporte. Dans l'atelier, des pas glissèrent, puis le froufrou d'une robe. Donc, elle était partie. Olga eut envie de crier, d'injurier le peintre, de lui jeter quelque chose de lourd à la tête. Mais elle ne voyait plus rien à travers ses larmes. Elle était littéralement écrasée par la honte. Elle éprouvait un sentiment bizarre, comme si elle n'était plus Olga Ivanovna, mais une pauvre petite mouche. « Que je suis fatigué !» dit Ryabovski de son air langoureux, en regardant l'étude et en secouant la tête comme pour lutter contre le sommeil. C'est gentil, certes, mais voilà, aujourd'hui, hier, l'année dernière, c'est toujours la même étude, et dans un mois, ce sera la même étude encore. Mais comment ne vous en voulez ces points? Moi, si j'étais à votre place, j'aurais depuis longtemps renoncé à la peinture, et je me serais occupé sérieusement de musique ou d'autre chose, puisque vous êtes plutôt musicienne que peintre. Ah, mais... « Je suis joliment fatigué, moi. Je vais dire qu'on nous serve du thé, n'est-ce pas ?» Il quitta la pièce et Olga l'entendit qu'il donnait un ordre à son domestique. Pour ne pas lui dire adieu, pour éviter une explication, mais surtout pour ne point fondre en larmes, avant que Ryakovski fût revenu, elle courut au vestibule, remit ses caoutchoucs et s'élança au dehors. Une fois dans la rue, Olga respira librement, et soudain elle sentit qu'elle était pour jamais débarrassée de ce Riabovski et de la peinture, et de cette honte qui l'avait si fort oppressée dans l'atelier. C'était fini. Elle s'en fut chez sa couturière, puis chez Barney, arrivée de la veille à Saint-Pétersbourg, puis dans un magasin de musique. Tout le temps, elle se disait qu'elle écrirait à Riabovski une lettre froide, cinglante, hautaine, et elle se représentait le bonheur qu'elle goûterait à faire au printemps ou l'été prochain un voyage en Crimée avec Dimov. Là, elle se dégagerait définitivement du passé. Là, elle commencerait une existence nouvelle. Rentrée chez elle à 1 heure avancée de la soirée, elle courut au salon sans changer de toilette et se mit à rédiger aussitôt sa lettre à son amant. Ah, il avait prétendu qu'elle n'était pas du tout peintre. Eh bien, elle écrirait à cet homme qu'il peignait tous les ans la même chose et disait tous les jours la même chose. Qu'il piétinait sur place, que jamais il ne s'élèverait plus haut. Elle voulait aussi lui écrire qu'il devrait beaucoup à son influence à elle et que, si en ce moment il agissait d'une manière déloyale, c'était que cette influence était paralysée par des personnes équivoques dans le genre de celles qui se dissimulaient derrière le rideau. « Maman !» appela Dimov de son cabinet sans ouvrir la porte. « Maman !» « Qu'est-ce qu'il y a ?»« N'entre pas, maman, approche-toi seulement de la porte, écoute. »« Avant-hier, j'ai attrapé la diphtérie à l'hôpital et maintenant... »« Oh, je suis pas bien. Il faut que tu envoies tout de suite chercher Koltesleyev. » Olga nommait toujours son mari par son nom de famille, comme tous les hommes de ses amis. Son petit nom, Ossip, ne lui plaisait pas, premièrement parce qu'il rappelait à l'esprit... le valet de la fameuse pièce de Gogol, et puis elle trouvait ce prénom par trop banal. Mais à cette heure, elle s'écria « Ossip, quoi donc, c'est impossible ! Envoie chercher vite, je me sens mal !» dit Dimov derrière la porte. On l'entendit retourner à son divan et se coucher. « Vite !» répéta une voix encore, sa voix enrouée. « Mais alors, qu'est-ce donc ?» pensa Olga terrifiée. « Mais c'est dangereux !» Sans bien savoir pourquoi, elle prit la bougie et passa dans sa chambre à coucher. Là, comme elle se demandait ce qu'elle allait faire, elle se vit tout à coup dans la glace. Avec son visage pâle, effrayé, dans sa jaquette à larges manches, son gilet à volets jaunes et sa rue rayée, elle se trouva laide, répugnante à cette heure. Soudain, une pitié douloureuse la prit de ce Dimov, de son amour infini pour elle, et de même de ce lit abandonné où il ne couchait plus depuis longtemps. Elle se ressouvint tout à coup de son sourire bon et résigné. Elle se mit à pleurer amèrement, puis écrivit à Kosteleïev une lettre suppliante. Il était 2 heures du matin. Le lendemain, à 8 heures, quand Olga Ivanovna sortit de sa chambre, la tête lourde, mal coiffée, l'air coupable, le visage fatigué par l'insomnie, elle vit passer devant elle un monsieur à barbe noire, sans doute un médecin. L'odeur exhalée des médicaments flottait par la maison. Au seuil du cabinet se tenait Koltesleyev, tiraillant sa moustache. « Pardon, je ne vous laisserai pas entrer chez lui, » dit-il à Olga d'un air sombre. « C'est contagieux, et puis cela serait inutile, il est en délire. »«
C'est donc la véritable diphtérie qu'il a ?» demanda doucement la jeune femme.
« Ceux qui s'exposent volontairement au péril, on devrait les poursuivre en justice, au fond, » murmura Koltesleyev sans répondre à la question d'Olga. « Savez-vous comment il a pris la maladie ?» C'est mardi qu'il a, au moyen d'une canule, aspiré les pellicules diphtériques d'un jeune malade. Et pourquoi ? Mais c'est absurde. Comme cela, sans raison.
Est-ce dangereux, très dangereux ? Interrogea Olga.
Oui, on dit que c'est une forme très complexe. Il faudrait faire venir Shkrek.
Dans la journée, vinrent un petit monsieur roux, avec un accent juif, puis un grand ébouriffé qui avait l'air d'un archidiacre, puis un autre encore, tout jeune, très gros, le visage rouge, avec des lunettes. C'étaient les docteurs qui se relayaient auprès de leurs collègues. Korosteliev, après ses heures de garde, ne s'en allait pas et rôdait comme une ombre dans toute la maison. La bonne servait le thé au médecin et courait constamment chez le pharmacien. Il n'y avait personne pour faire l'appartement. Un silence morne pesait. Olga demeurait dans sa chambre à coucher. Elle pensait que Dieu la punissait pour avoir trompé son mari. Un être silencieux, résigné, incompris, faible par douceur, impersonnel par excès de bonté, souffrait là-bas, sur le divan, sans proférer une seule plainte. Mais s'il parlait, fût-ce dans le délire, tous ces docteurs à son chevet apprendraient que la diphtérie n'était pas la cause unique de son mal. Il n'aurait qu'à interroger Korosteliev. Lui savait tout. Et ce n'est pas sans raison qu'il jetait sur la femme de son ami des regards accusateurs. Il semblait dire, ses regards, qu'elle était la vraie coupable. La diphtérie n'était que sa complice. Olga ne se rappelait plus ni le clair de lune sur la Volga, ni la déclaration d'amour, ni la vie poétique dans les izbas des paysans. Elle ne se ressouvenait que d'une chose, c'est que, par caprice, par fantaisie, elle s'était salie d'une boue gluante que rien ne pouvait plus effacer. « Oh, comme j'ai menti !» se disait-elle en songeant à son amour de névrosé pour le peintre. « Oh, maudite que je suis !» À 4 heures, elle dîna seule en face de Korosteliev. Il ne mangeait rien, il buvait seulement du vin rouge en gardant son air sombre. Elle ne mangeait pas non plus. Tantôt, priant Dieu, elle faisait mentalement le vœu d'aimer Dimov encore lorsqu'il serait guéri et de lui être une épouse fidèle désormais. Et tantôt, s'oubliant, elle regardait Korosteliev et pensait « Quel ennui! Toute la vie être un homme ordinaire, inconnu et par surcroît de malchance, avoir une figure si chiffonnée, des manières si communes. » Ou bien il semblait à Olga Ivanovna que Dieu allait tout à l'heure la châtier de n'avoir pas encore mis une seule fois le pied dans le cabinet de son mari, par sa peur de la contagion. Et une douleur sourde l'oppressait, la sensation bien nette que sa vie était perdue irréparablement. Après le dîner, la nuit vint. Olga, traversant le salon, aperçut Korosteliev endormi sur un canapé, la tête contre l'un des coussins aux broderies d'or. « Kipfua !» ronflait le petit bonhomme. « Kipfua !» Et les médecins qui allaient et venaient par la maison ne remarquaient point ce désordre. Cet insolite spectacle d'un étranger qui ronflait au salon et ses études accrochées au mur et cet arrangement bizarre jusqu'à cette maîtresse de maison décoiffée en peignoir, rien n'attirait maintenant l'attention. Un des médecins ayant ri par hasard à propos de quelque chose, son rire en un pareil moment résonna d'une manière si étrange que cela fit peur. Lorsque, un peu plus tard, Olga repassa dans le salon, Korosteliev ne dormait plus. Il était maintenant assis et fumait. « C'est la diphtérie de la cavité nasale, » dit-il à voix basse. « Déjà, le cœur ne fonctionne plus très bien. Les choses vont mal, au fond. Ben, vous voyez donc chercher Chek, » suggéra Olga. « Il est déjà venu. C'est lui, justement, qui a découvert la nature du mal. Mais, bah, qu'est-ce que ce Chek? Rien du tout, au fond. Il s'appelle Chek et moi, je l'appelle... Korosteliev, voilà toute la différence. » Les heures se traînaient interminables. Olga s'était couchée tout habillée sur son lit, qu'on n'avait pas encore fait, dans une espèce de cauchemar. Il semblait à la jeune femme que la maison entière, du haut en bas, étouffait sous un énorme bloc de fer, et qu'il eût suffi de l'enlever, ce bloc, pour soulager, ranimer chacun. Elle revint à elle et comprit que ce n'était point un bloc de fer, mais la diphtérie d'Ossipe. Nature morte, apporte, pensait-elle en s'oubliant de nouveau. Et crec, crec, grec. Et où sont donc en ce moment tous mes amis? Ont-ils vent de notre malheur? Ô mon Dieu, sauvez-nous, venez à notre secours. Crec, grec. Encore ce bloc de fer. Et le temps est long, si long. Et pourtant la pendule en bas sonnait souvent. Le timbre ne cessait de retentir. C'étaient les médecins qui arrivaient. La bonne entra, portant sur un plateau un verre vide. Elle demanda « Madame, voulez-vous que je fasse votre lit ?» Ne recevant pas de réponse, elle s'en fut. De nouveau, la pendule sonnait en bas. Olga rêvait d'une pluie sur la Volga. Puis quelqu'un vint dans la chambre à coucher, un étranger sans doute. Elle sauta vivement du lit et reconnut Korosseliev. « Quelle heure est-il ? » interrogea-t-elle. « 3 heures environ. »« Eh bien ? » ?»« Eh bien, quoi ? Je suis venu vous dire, il se meurt. » Il fut secoué d'un sanglot et, s'asseyant sur le lit près de la jeune femme, il essuya ses larmes avec sa manche. Elle ne comprit pas tout de suite le vrai sens de ses paroles. Mais soudain elle eut froid dans tout le corps et se mit à faire lentement le signe de la croix. « Mais il se meurt !» répéta Korosseliev d'une voix grêle, et de nouveau il sanglota. « Il se meurt parce qu'il s'est volontairement sacrifié. Quelle perte pour la science » fit-il avec amertume. « Si nous le comparons avec nous tous, Dimov était vraiment un esprit en ligne, un grand homme. Que n'espérions-nous pas de lui ? » continua-t-il en se tordant les mains. « Oh, mon Dieu, mais quel savant il serait devenu ! On n'en trouvera plus un pareil. Oh, Dimov, Voska, Dimov, qu'as-tu fait ? Oh, mon Dieu, mon Dieu !» Korosseliev cacha son visage dans ses deux mains et secoua la tête avec désespoir. « Et quelle force morale !» reprit-il, comme s'acharnant de plus en plus contre quelqu'un. « La belle âme, tendre, affectueuse, pure comme une glace transparente. À la science, il avait sacrifié sa vie entière, et c'est pour la science encore qu'il meurt. Il travaillait comme un bœuf, jour et nuit, et personne au monde ne le ménageait. Ce jeune savant, ce futur professeur, il devait courir la clientèle et faire des traductions la nuit afin de payer ses maudits chiffons. » Korosseliev attacha sur Olga des yeux pleins de haine et saisit de ses deux mains le drap de lit qu'il tira fortement comme s'il était la cause du malheur. Lui-même ne se ménageait pas et les autres ne le ménageaient pas non plus. Mais à quoi bon parler, au fond ? Oui, c'était véritablement un homme rare, dit quelqu'un d'une voix de basse dans le salon. Olga Ivanovna se rappela toute sa vie avec Dimov, du premier jusqu'au dernier jour, dans les moindres détails. Et elle reconnut soudain que c'était vraiment un homme rare, extraordinaire, et comparé à tous ceux qu'elle connaissait, un homme vraiment grand. Puis elle se ressouvint combien elle avait toujours été considérée par feu son père à elle et par tous ses collègues. Elle comprit que tous voyaient en lui une future gloire. Les murs, le plafond, la haute lampe et le tapis, tout ce qui l'entourait, mit alors à la regarder avec une grimace railleuse comme pour lui dire « Et toi, malheureuse, tu l'as ignorée, méconnue ?» Elle s'élança hors de sa chambre en pleurant, passa comme une trompe devant un inconnu assis au salon et courut dans le cabinet de son mari. Ossip était couché sur le divan turc. Une couverture lui cachait le bas du corps. Son visage avait beaucoup changé. Maigri étonnamment, il offrait une teinte gris jaunâtre qu'on ne voit jamais chez un homme vivant, et ce n'était qu'à ses noirs sourcils et à son doux sourire familier que l'on pouvait reconnaître Dimov. Olga Ivanovna, d'un mouvement rapide, lui tâta la poitrine, le front et les mains. La poitrine était chaude encore, mais le front et les mains étaient d'un froid désagréable. Et les yeux à moitié ouverts se fixaient non point sur Olga Ivanovna, mais sur la couverture. « Dimov !» cria-t-elle. « Dimov !» Elle voulait lui dire que tout cela était une erreur, un malentendu, que tout n'était pas jamais fini, que la vie pouvait encore être belle et heureuse, qu'il était, lui, un homme extraordinaire et grand, et que désormais elle passerait le temps à le chérir, à le vénérer, à ressentir en sa présence une peur auguste. « Dimov !» appela-t-elle en secouant par l'épaule et se refusant à croire qu'il ne se réveillerait plus jamais. « Dimov, voyons, Dimov !» Et pendant ce temps-là, Korosteliev, dans le salon, disait à la bonne « Mais qu'est-ce que vous avez à demander? Allez à la première église !» et priez le Suisse de vous dire où demeurent les veilleuses. Elles viendront laver le corps et feront tout ce qu'il faut.